Rabboni, mon maître, Rabboni, mon maître, Rabboni, Rabboni, mon maître, Rabboni, Rabboni, mon maître. Dieu, Dieu, mon Dieu, je te cherche de l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, l'anguille, ma chair, altérée, sans eau. Rabboni, Rabboni, mon maître. Rabboni, Rabboni, mon maître. Je te contemple dans le sein. Je vois ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu es la louange de mes lèvres. Rabboni, Rabboni, mon maître. Rabboni, Rabboni, mon maître. Toute ma vie, je décolline de bénédiction. Je lève les mains vers toi en vivant ton nom à l'intérieur de comme par un festin, je sais, tu me rassasiras. La joie sur mes lèvres, je dis ta louange. Rabboni, Rabboni, mon maître. Rabboni, Rabboni, mon maître. Oui, c'est toi qui es venu à moi, un cri de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme se saisit de toi. C'est ta droite qui m'étreint. Rabboni, Rabboni, mon maître. Rabboni, Rabboni, mon maître. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Dis-nous, Madeleine, qu'as-tu vu au chemin? J'ai vu le tombeau. C'est le tombeau du Christ qui est vivant. Oui, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie, celle de Magdala, se rendait au tombeau de grand matin. C'était encore la nuit. Elle voit la pierre a été enlevée du tombeau, debout près du tombeau, en dehors de lui. Elle était tout en larmes. Et tout en pleurant, voici, elle se penche vers l'intérieur du tombeau. Et elle voit deux anges revêtus de blanc, l'un assis à la tête et l'autre au pied. À l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Les anges lui demandent, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle dit, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Et en disant cela, elle se retourne d'eux. Et voici, elle voit Jésus qui était là debout, sans savoir que c'était Jésus. Et Jésus lui disait, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle le prend pour le jardinier et lui dit, « Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as placé et moi j'irai le prendre. » Alors Jésus lui dit, Marie, se retournant, elle lui dit alors, Rabboni, en hébreu, ce qui veut dire mon maître. Et Jésus reprend, ne t'agrippe pas à moi, parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors Marie, Madeleine, va à la annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ton évangile, Seigneur, s'inscrit dans nos âmes, alléluia. Qui transforme la surface de la terre comme une ondée de lumière, pénétrant en bénédiction pour que toutes les âmes pures puissent voir de leurs yeux, dès cette terre, s'ouvrir les portes de la Jérusalem d'en haut, immaculée. Libéré de toute entrave, lavé de toute faute. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. à toi, alléluia, louange à toi, alléluia, louange à toi, alléluia. C'est une surprise. C'est une surprise. On se retrouve pour la Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. La première patronne de la France. Patronne de la Provence. Quand on monte comme ça, ouais, dans le bassin, sur cette forêt inouïe, extraordinaire, des montagnes de la Sainte-Baume, c'est-à-dire du parfum. On monte à travers ces arbres, là, et puis on se retrouve au bout d'un certain temps. Ces arbres, d'ailleurs, qui sont comme une espèce de voûte, qui font écho très très souvent. Traversée d'une brume, d'un brouillard extrêmement fin. C'est un endroit unique au monde. Les racines des arbres courent comme ça, tout au long du chemin. Chaque arbre dresse ses racines, tout à la surface de la terre. Tous ces arbres qui se lancent comme ça dans le ciel de la baume, il ne plonge pas ses racines dans la terre parce que c'est de la pierre. Alors ses racines sont là. Et on monte. C'est tellement bizarre qu'on en ferait. On préfère le montrer en dessin animé. Et d'ailleurs, les hommes ne s'étaient pas trompés. C'était vraiment un lieu, un endroit. Très facilement, on sortait dans un état second et donc on faisait des invocations. On faisait des invocations dans ces forêts, ces invocations, vous savez, comme dans les films des sorcières. Et c'était un endroit, effectivement, qui était consacré à ça. Et quand Madeleine a passé par travers cette. Elle est allée, vous savez bien, elle a débarqué en France. Avec l'aveugle-nez, avec Zachée, avec les disciples. C'est un homme, cinq disciples de Jésus. Lazare, en particulier, son frère. Elle avait déjà, dans ses entrailles, elle avait déjà mis ses entrailles dans le cœur de Jésus. Hein, quand Jésus disait « Je suis la résurrection ». N'est pas mort. Et elle mettait ses entrailles dans le cœur de Jésus. Dès lors qu'elle a vu son Jésus arriver, elle avait pris du nard. Ça, tout le monde, on le sait, on s'en rappelle de tout ça. Elle avait répandu son nard de parfum. Et parfumé avec ses larmes et le parfum, sa tête, et une autre fois ses pieds. Avec le nard, il y a un lien très puissant entre cette Marie-Madeleine et Saint-Joseph. Saint Hildegarde qui dit que la femme est le miroir. La vérité de l'homme dans le monde, l'homme dans le monde, voilà, c'était lui. Et il a toujours fait ça. Et elle l'a fait deux fois parce que Elle est comme le char visible d'un amour invisible. Elle a mis ses entrailles dans le cœur de Jésus. C'est bien que quand Jésus était sur la croix comme un faisceau de mire, dégoulinant d'amour, et qui répandait le nard surnaturel, incréé, elle le recueillait dans ses entrailles, brûlant à l'intérieur du cœur même. Et elle a compris que le nard émanait d'une résurrection déchirée. Vous voyez, quand on dit elle est dans le tombeau, par exemple, elle est sur, pas dans le tombeau, elle n'est pas rentrée dans le tombeau, hein. Mais elle regarde dans le tombeau, là. Et elle voit donc deux anges, et ils étaient, je vais le signaler cette nuit, Stolein Leiken. Ils étaient revêtus, Leiken, c'est un blanc, d'une blancheur extraordinaire. Et Stolein, ils étaient revêtus d'un habit sacerdotal, les doles. Hein. Il y en avait un qui était à la tête, et l'autre au pied. Le nard qu'elle avait répandu. Elle a été les deux mains, si je puis dire, de la responsabilité de l'humanité tout entière. Et Jésus l'a dit. Hein. Elle a oint de ce nard. La tête et les pieds de Jésus. C'est pour ça que on ne se rend pas compte que ce geste dans la résurrection permet au Christ, permet à Jésus, permet au Père, permet aussi au Saint-Esprit et aussi à l'angélique tout entier de pouvoir commencer leur amour victimal, sacerdotal, de manière glorieuse, un amour qui est victorieux de tout et qui assume, ne fait pas disparaître, mais assume, embrasse, étreint, brûle, comme on fait brûler un petit une goutte d'encens pour lui donner toute son exhalaison. Et c'est la tête et c'est les pieds. C'est vrai, Jésus est venu une première fois comme Verbe de Dieu. Il a pris chair, voilà, pour la tête. Il vient une seconde fois avec la ferveur du Saint-Esprit. Il vient vers nous. Et c'est cette ferveur qui l'amène jusqu'à nous. Et ça, c'est sacerdotal. Il a fallu que dans l'humanité, il y ait quand même une personne et qu'il y ait un instrument d'amour. Ça pouvait être que quelqu'un qui avait déjà placé toutes ses entrailles dans le cœur de Jésus. Hein. Ces racines extraordinaires, les arbres de la Sainte-Baume, hein, qui parcourent comme ça. Quand je vais là-bas, je m'arrête toujours. Je dis, attends, ça fait combien de mètres, là? Alors, cet arbre-là, tu regardes. Mais non, ça va jusqu'à 20 mètres. Alors ça va aussi, hein, les racines là. Alors que c'est beau. Et quand tu cries dans la forêt de la Sainte-Baume, ça fait un écho, comme dans une cathédrale quelquefois. Quand tu faisais des invocations aux puissances, avant le Christ, les Gaulois de Massilia, de Marseille. C'est merveilleux, ça, pour faire leur rituel. C'était une zone, avec Marseille d'ailleurs, avec Notre-Dame de la Garde, c'était un temple d'une déesse grecque. Hein. Je crois que c'est Artemis, hein. Ça fait rare. Marie-Madeleine y a été, là, tout de suite. Ils ont été à Marseille, avec Lazare. Ils ont dit, voilà, il y a Jésus. Personne n'a voulu les entendre. Ils étaient une poignée, c'était pas rien, ils priaient. Et ils ont compris que le Seigneur leur a dit, bien sûr, que le véritable Israël de Dieu viendrait courir et poser ses pieds sur la terre de ce véritable Israël de la fin. Elle avait droit les pieds aussi. Et c'est pour ça que sa ministère, vous le savez, puisqu'il y avait pourtant les apôtres, ça c'est les démons. Hein. Ah, sur cette terre-là, démons a vraiment, vraiment pris ça, mis sa main. En tout cas, elle a traversé, elle est partie, elle a quitté. Elle est allée au pied de Marseille, marcher, et puis elle est arrivée dans cette forêt, puis elle a traversé en larmes, comme Jésus et Gethsémanie, comme Adam aussi sur les collines du Mont des Oliviers, comme Joseph aussi, comme Diane Catherine, elle a traversé ces mêmes. Et puis dans les larmes de compassion de l'Immaculée, elle a traversé ça, elle s'est retrouvée au pied d'une falaise. Et elle a demandé aux deux anges de l'aider. Alors elle a été transportée du pied de la falaise dans un trou. Vous êtes très nombreux à être allés dans ce trou. Non. C'est un endroit tout à fait... Bon, les hommes ont taillé dans le roc, enfin, de quoi monter quand même dans cette falaise et puis arriver jusqu'au trou. Dedans, c'est une grotte. Et elle a été déposée là pendant 22 ans. Il y a un parallèle à faire avec ce qui s'est passé entre Saint Jean et Marie. C'est à peu près au même moment, c'est le même parcours, c'est la même durée. Marie-Madeleine, elle représente toujours Marie. Tout ce qu'on a sur l'évangile, sur Marie-Madeleine, c'est pour une révélation sur ce qui se passe pour Marie. D'ailleurs, personne ne s'y est trompé, puisque la seule fois où l'évangile prononce le nom de Marie, c'est quand il s'adresse à Marie-Madeleine. Est-ce que c'est la première qui a vu Jésus ressuscité alors? Réponse, non. Pourquoi les gens disent, ben oui, bien sûr, c'est d'abord Marie. Donc, je suis d'accord. Mais pour l'exprimer, l'évangile le dit fait comment? Parce que les femmes, elles sont venues comme ça avec les parfums. Elles sont d'abord venues avec les parfums, les femmes. Hein? Et puis, c'est d'abord au tombeau. Hein? Et donc, elles sont reparties du tombeau. Avec Madeleine, elles sont reparties toutes tristes. Et puis, à mi-chemin, si je puis dire, c'est ça, Madeleine est quand même retournée, les a quittées. Elle est revenue au tombeau et elle pleurait, elle était là, comme on vient de le lire. Mais les autres qui continuaient, Jésus s'est trouvé devant elles. Hein, vous avez lu l'évangile, n'est-ce pas? Alors, il leur a dit, « Cela me manque. » Il leur a dit donc, Shalom, Emma, je vous salue. Je vous salue. Il y a un problème?
Je vais nous prendre à 9h30.
Pardon?
Je les prends à 9h30 parce que autrement, mon jumeau il est revenu à 14h du matin, donc il dort.
Votre jumeau dort?
J'ai mon dentiste à 11h moins le quart.
Et vous voulez qu'on vous amène chez le dentiste? C'est ça?
Non!
On le prend avant.
Je le prends avant pour l'amener à Gien.
Ah, mais on l'amènera!
On les amène, on les amène.
Ben, bien sûr qu'on l'amène.
D'accord, ok, allez. Bon. Bon, merci.
Bien sûr.
La messe termine avec...
On est en pleine messe en ce moment.
Oui.
Oui.
Et est-ce que je peux rester à des heures et demie? Moi, je peux rester jusqu'à des heures et demie ici. Si la messe est dit, moi, j'ai 11h moins le quart, le dentiste, alors.
Mais vous venez quand vous voulez.
Moi, je peux rester. Je peux rester à la messe.
Oui, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trois comme vous. Sinon, à 1h30, on n'aura pas fini. On n'aura pas commencé. Et c'est pour ça que l'Église demande qu'on soit à l'Église avant la messe, une demi-heure avant qu'elle ne commence. Pas une demi-heure après qu'elle ait commencé. Comme font tous les catholiques. On est compte ?
C'est le mode en ce moment d'arriver en retard.
C'est le souffle de... Hein, maintenant c'est...
Dans beaucoup de messes, les gens arrivent.
Tout ce qui arrive à Marie-Madeleine dans l'Évangile, c'est pour comprendre ce qui arrive à la Vierge Marie. Dans son mystère de co-rédemption, c'est pour ça que ces deux anges revêtus d'un saint immaculé, quoi, et d'un habit sacerdotal. C'est Dieu parce qu'il y a sacerdoce. Dans la résurrection, Jésus a emporté le sacerdoce, son propre sacerdoce joannique, et le sacerdoce de la médiation. Le sacerdoce, c'est une médiation entre le Père et la subsistance mystique dans le Verbe de Dieu de tout ce que Dieu aime. C'est un médiateur, le prêtre est un médiateur, c'est un trait d'union qui fait pénétrer l'un dans l'autre. Et Marie est mère du sacerdoce, elle est la matrice, elle est le principe du sacerdoce, elle est le sacerdoce dans son principe spontal. Et donc c'est pour ça qu'il y a un ange à la tête et un ange, et un ange aux pieds. Il ne faut quand même pas oublier hein, que Saint Jean a déjà été donné hein, comme prêtre à Marie. Et donc, c'est sûr, il lui est extrêmement proche, on le voit bien d'ailleurs dans le Cénacle. Et puis, bon. Non, ça va continuer comme ça longtemps, là. C'est fini, c'est bon. Bon. Certaines fois, j'étais obligé de recommencer. On revient une demi-heure en arrière, on recommence à zéro. Ça m'est arrivé. Hein. C'est vrai, ça peut arriver un accident. Alors, on recommence à zéro. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Un accident grave. C'est pas grave, puisque nous on est une communauté de bras cassés. Alors, s'il n'y a pas d'accident, c'est qu'on n'est pas la communauté des bras cassés. La fraternité des. Mais en tout cas, tout ce qui arrive à Marie-Madeleine, c'est nous montre toujours, vous voyez, des femmes. Jésus leur dit. Je vous salue. La première fois que Jésus, dans l'Évangile, ouvre ses lèvres et dit « Je vous salue. » Salam, Emma. Et la deuxième fois, quand Marie-Madeleine, il sait le jardinier, il dit Marie. Et la troisième fois, vous vous rappelez, en fait, c'est la parole de l'ange Gabriel à l'Annonciation, la résurrection dans l'Évangile, et cette apparition, c'est Ave Maria, gratia plena. Elle est la mère de la résurrection, et elle est l'apparition pour la Jérusalem glorieuse de l'épouser. Elle est l'apparition de la résurrection pour la nature humaine tout entière et pour le Père. Jésus est ressuscité pour Marie et pour le Père. Voilà pour la tête, pour le Père, et pour Marie, voilà pour les pieds. Il ne faut pas croire que, vous savez, il ne faut pas croire que Marie, elle était là au pied de Jésus. Elle avait très bien compris, je suis la résurrection. Quand son frère venait de ressusciter d'entre les morts, elle l'avait déjà compris même avant. Mais elle a compris physiquement ce que c'était, cette phrase de Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Elle avait tellement compris. Elle était là suspendue, vous voyez. On s'en rappelle de ça. Et quand Jésus dit « Le parfum et le nard qu'elle met, c'est pour mon union hypostatique déchirée, c'est pour ma sépulture », il a révélé ce qui était dans sa contemplation messianique, dans son onction brûlante d'union avec le Messie d'Israël. Elle était de famille royale. Et elle savait ce qu'elle faisait. Marie, dans sa vie co-rédemptrice, de médiatrice, sait tout ce qu'elle fait. Elle le sait. Elle ne donne simplement que, elle n'est pas dans l'inconnaissance, comme on dit. Non, pas du tout. Elle sait ce qu'elle fait parce que tout lui est révélé. Marie-Madeleine, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle est une étape, une vitrine. Et alors, on peut rentrer dans la médiation de Marie qui offre l'eau et le sang. Et ce que le nard, lorsque il s'est répandu, déploie, c'est la présence du Saint-Esprit. La Pentecôte finale dans le sein du Père qui est l'époux. Parce que Marie a été assumée dans l'époux. Comme elle poussait, comme le Verbe de Dieu l'est de manière agréée, avec sa chair immaculée, elle a donné à la vision que Dieu a de lui-même, un regard dans le sacerdoce de la résurrection du Christ. Il ne faut pas croire que, vous savez, on voit quelquefois des films, puis la Sainte Vierge, tu vois, il y a un ange, Alors, soit tourne, après elle retourne à la cuisine, elle va voir le cerisier, c'est pareil quoi. Comme nous. Elle est comme nous. Eh non. Et il y a un lien très 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 fort, c'est évident qu'il y a un lien très très fort entre Marie-Madeleine et ce qui se passe entre le sacerdoce victimal ultime de la parousie du Seigneur, son retour sur les nuits du ciel, hein, on peut dire, et puis le sacerdoce de la Jérusalem terminale de l'Église, quoi. On veut dire par là tout l'aspect johannique du sacerdoce de Jésus. C'est un sacerdoce victimal d'abord, qui ne cesse de se montrer voilé, quoi. Mais qui se dévoile dans le mystère de Marie. Et dans le nard lui s'efface. C'est pour ça que Jésus dit ça, cette histoire de nard, on en parlera à la fin du monde. On ne peut pas le comprendre ce qu'elle fait là. Personne ne peut le comprendre. Seulement à la fin, on pourra le proclamer au monde entier et le montrer. Je veux dire par là, Marie-Madeleine, cette Marie-Madeleine, la femme, l'épousait. L'Église, c'est une épousée. Il y a un côté sponsal dans l'Église, lorsqu'elle est parfaite. Elle est virginale, Stolène Leken, elle est sacerdotale et médiatrice des profondeurs de la paternité de Dieu. Il ne faut pas croire que Marie-Madeleine, elle a vécu ses 22 dernières années, sans compter bien sûr les 4 précédentes, sans rien comprendre. C'est absurde de dire ça. Sans rien voir. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on est extrêmement grégaire. On est plus grégaire que les Gaulois de temps de Jean-Marc Torix. Là je peux vous le dire. L'intelligence des hommes et des femmes en France aujourd'hui est sans aucune comparaison d'une grégarité totale par rapport aux Gaulois de Versailles Torix. Ah, bien sûr, on fait des dessins de bande dessinée voilà, d'Obélix. Une grégarité, mais ça fait peur. Hein. Aucun sens de... On voit pas ce qui se passe. C'est extraordinaire, ça. Et du coup, on pense que ben, Marie-Madeleine, ben, je suis une femme de mauvaise vie. Une femme de mauvaise vie. Marie-Madeleine, femme de mauvaise vie. Ah, d'accord. Et bien l'Église, elle la vénère, et le ciel et la terre la vénèrent, et Dieu la vénérait, Marie-Madeleine. Parce que, quelque part, mystiquement, surnaturellement, elle n'a pas fait nombre avec l'Église de la fin, la Jérusalem parfaite. Elle n'a pas fait nombre avec Marie, comme médiatrice. Elle a offert le dernier coup de tour et de sang. Parce que, vous savez, il faut que 2 ou 3 s'en réunir mon nom pour que l'offrande puisse être un témoignage. Et le Christ, dans un univers hypostatique, c'est le témoin fidèle et vrai. C'est le témoignage, la fidélité et la vérité. Et donc au pied de la croix, intérieurement, il y a un seul témoignage. Il permet ce cheval blanc de la copale, celui qui est le témoin fidèle et vrai. Son manteau trempé dans le sang. Et sur sa cuisse, un nom. La grâce de Théo. Sagesse de Dieu. Vous connaissez l'anecdote? Moi j'aime bien l'anecdote de Sainte Marie-Madeleine. C'est pas dans l'évangile cette anecdote, mais je l'aime bien. Elle était dans cette grotte là-haut et je ne sais pas si vous, ceux qui y ont été savent que quand on va, on rentre comme ça, dans le fond, il y a un espèce de monticule où il y a une croix dressée à l'intérieur. Mais si on va vers la droite, l'occident de la grotte, il y a quelque chose qui c'est humide. Il y a de l'humidité. Puis si on va un petit peu au fond, là-bas, ça coule un peu. Très fin, hein, ça coule vraiment minuscule. Hein. Mais ça coule, mais ça coule. Et quand elle était là, mais ça coulait pas. Alors du coup, à un moment donné, au bout de 10 ans, elle était là. Au bout de 10 ans qu'elle était là, elle dit, Seigneur, si je pouvais avoir un petit peu. Il y avait quand même des goutte à goutte, ça goûtait quoi ça. Le goutte à goutte, si on a, il y avait le goutte à goutte. Mais c'est tout. Donc ça lui suffisait peut-être pour se mettre la langue. Là, ses cheveux. Ses cheveux magnifiques. Et elle demande dans... Bah, c'est la première ermite chrétienne du monde. Zachée est devenue ermite pendant ce temps-là, là-bas, à Roquebrune. C'est les deux disciples qui sont devenus ermites. C'est les deux pieds du Christ à travers la vie hermétique. C'est Madeleine et Zachée. Bref, à un bout de 10 ans, elle dit, Seigneur, justement, elle a eu ce désir, pourquoi pas un peu d'eau, un peu plus d'eau. J'ai pleuré, je pleure encore un peu d'eau, autant que mes larmes. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est que là où ça y est encore aujourd'hui, il y a un trou et il y a quelque chose, et ça coule de l'eau. Alors elle s'est dit, bon, elle dit, je peux même me laver. Alors elle a pris de l'eau. Depuis 10 ans, l'eau n'avait pas touché ça. C'était pas lavé. Très, très bien pour le monde d'aujourd'hui, ça. Elle s'est lavée avec l'eau. Bah oui. Et puis, elle a vu en se lavant, enfin en se nettoyant tout simplement, hein. Voilà. Elle a vu que sa peau était encore belle. Elle a vu que sa peau était encore belle. Alors Jésus lui est apparu pour la deuxième fois. Il est apparu là. Et là, il est apparu dans la grotte. Et il dit, Marie. Ah, elle dit, bah oui, Seigneur. Et il dit, tu vois, tu n'es pas encore assez pur. Hein. 10 ans de plus. Ça, je dis ça aux gens qui passent sur la douche hein, 3 heures par jour. Qui passent leur temps à se laver la peau. Ma père Emmanuel disait, ils perdent toute leur défense. Et ça fait des gens qui sont à peu près semblables à l'intérieur à des mollusques liquides. Et le jour où il y aura des problèmes venant des nuages, ils viendront des crapauds. Et en perdant toute leur défense, leur peau sera transformée comme celle des crapauds, des cloques. Ils ont perdu toute leur défense. Père Emmanuel disait, regardez-moi, voyez, regardez ma main, regardez la vôtre. Vous voyez bien. N'importe quelle pustule, vous serez transformé en cloque. Moi, rien du tout. J'ai gardé toutes mes défenses. Ça fait 15 ans que je n'ai pas pris de produit pour me laver. Bon, s'il y a de l'eau dans le torrent, ça va. Ah, de la mousse, je ne sais plus quel produit, je ne sais plus quoi ça. Ah, sinon, je ne me sens pas bien, hein. On n'est pas seulement grégaire, on est complètement corrompu. Ça, c'est les deux pieds de l'esprit de ce monde, ça. Il court dans la corruption et la mollusquerie. Aucune virilité. C'est extraordinaire. Marie-Madeleine est là pour tout dire. Allez. Alors, elle a fait 10 ans de plus. Mais j'aime beaucoup cette histoire-là. J'aime pas dire c'est des légendes, vous savez. J'aime pas trop. Ah oui. Quand Jésus, elle s'est accrochée à ses pieds, quoi, elle s'est accrochée à ses pieds. Rabboni. S'est accrochée à ses pieds. Et Jésus, lui, et il lui a posé les deux doigts ici, là. Il lui a posé les deux doigts sur son front. Et Il a dit, ne t'agrippe pas à moi. Voilà, comme ça. Ça sur son front. Et demain, ressuscité du Christ, ont touché son front. Si bien que quand, à l'époque de Saint-Louis, roi de France, on a ressorti son tombeau, son corps, il y avait dans sa tête un parchemin, un petit peu dans le sanctuaire, il y a marqué Ein, Aleph, Nun. Et là, il y avait une petite parcelle d'un petit document écrit où il y avait marqué Yiket Mar Magdalena. Quand on ouvre son tombeau, le nard s'est répandu dans toute la région. Et sur son front, la peau était restée parfaitement souple, incorrompue. Ici. On a appelé ça le non me tingere. Ne me touche pas. Il a fallu attendre, pour Zachée, il a fallu attendre des protestants. Il dit, mon Dieu, son corps est totalement souple, parfaitement incorruptible. Vite, ils l'ont pris pour le brûler. Parce que là, on a la preuve que la grâce sanctifiante existe. Alors Luther a dit, la grâce sanctifiante n'existe pas. Donc ils ont vite brûlé le corps de Zachée. Et là, à Marie-Madeleine, il a fallu attendre la Révolution française. À la Révolution française, ils ont détruit le « ne me touche pas » qui était sur son front, réduit en poussière. Il n'y est plus. Quand vous voyez le crâne à Saint-Maximin de Marie-Madeleine, il n'y a plus les deux traces. Mais c'était, tout le monde pouvait le voir. Curieux ça, ce parcours de l'histoire. Elle est quand même la première patronne de la France, quelque part, parce que la France c'était la Provence. Il a fallu attendre les rois de France pour que ça monte jusqu'à la Flandre. C'est beau, hein? Je me rappelle quand j'étais à Notre-Dame de Domanova, mon ermitage dans les Pyrénées. J'étais content parce que je rentre dans... Et pas du tout exprès, hein? Pas du tout. Il y avait une statue de Marie-Madeleine, une statue de Saint-Michel-Archange, une statue de Saint-Anne, une statue de Thérèse, de l'Enfant Jésus, et une statue de Saint-Martin. C'est les cinq patrons de la France. Mais le nouvel Israël de Dieu à la fin, découline de cet amour, d'une ferveur surnaturelle et quasi agréable, Marie-Madeleine, vous comprenez? C'est ça que je veux dire par là, hein? Les pieds et la tête. Et c'était une très... j'aime le dire parce qu'on la représente tellement... de manière grotesque, c'est une très très grande contemplative. Les deux virginités dans la femme, dans la nature humaine, de toute l'histoire de la création du monde, les deux icônes de la virginité, c'est Saint Augustin qui le dit, c'est Marie et Marie-Madeleine. Alors que le démon dit, bah, il y en a une qui... et l'autre... voir David Chicot. Amen. Ils ne savaient pas ce que c'était que des princes. Ils ne savent pas, ils ne savent plus. Le grégaire pense qu'il n'y a que de la grégarité. L'impur pense qu'il n'y a que de l'impureté. Mais devant le pur, la pureté s'arrête. Et Saint-Augustin dit, voilà, la virginité éternelle de Marie est éternelle à cause de la virginité éternelle de Dieu. C'est ce qu'on dit, hein. Dei mater alma, virginité de Dieu, Marie. À cause de quoi elle s'écoute librement à l'intérieur comme à l'extérieur, en transformation la virginité de Dieu dans la nature humaine entière. Mais la virginité retrouvée, la virginité retrouvée, la création virginale, rédemptrice, incarnée, c'est Marie-Madeleine. Il y a la tête et il y a les pieds. Et virginité, en termes, si vous voulez, clairs, ça se traduit par vie contemplative. Si vous voulez voir Dieu, il faut rentrer dans une virginité dégoulinante de contemplation immaculée. Et c'est pas vous qui pouvez le produire, ça. C'est un don de Dieu. C'est la grâce sanctifiante qui permet ça. La grâce catholique permet cette virginité. Si tu n'es pas catholique, tu n'as pas cette grâce. Et si tu n'as pas cette grâce, c'est probablement que tu ne fais pas partie de ceux qui l'ont désiré, vous comprenez. Alors, il faut que ce soit Marie-Madeleine qui l'annonce, qui le proclame. Elle est envoyée pour ça. Vous remarquerez une autre chose que je trouve un peu assez émouvant chez elle, c'est que Jésus ressuscité, elle l'aime tellement. Et Jésus lui dit, tu vas vers les frères leur dire ce que je viens de te dire, je suis vers le Père. Et elle n'a pas attendu une seconde de plus. Elle est partie immédiatement. Elle s'est arrachée pour aller vers les disciples. Alors qu'il était là. Ça veut dire quelque chose, vous savez, ce qui s'est passé dans le cœur de Marie. Quand il a dit, je vais vers le Père et mon Père, le jour de l'Ascension. Elle s'est enfoncée, quoi. Elle s'est enfoncée. Et en même temps que Marie-Madeleine, Marie s'est enfoncée comme ça. Ça a été jusqu'à Éphèse, vous voyez. Pour aller s'arracher là et rentrer dans une proclamation à l'universalité des sources d'être, de vie, d'amour, jusqu'à sa dormition, jusqu'à ce que ce soit possible, et que ça se réalise en affinité avec le Christ ressuscité, dans l'amour extasié, donc, dans la paternité incrée de Dieu. C'est extraordinaire que le mystère de l'Ascension soit un mystère d'amour séparant. Ça, c'est... Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire là-dessus. Ce mystère de l'esprit d'obéissance qui est, pour ainsi dire, le moteur, le feu, qui rend ardent, rapide, immédiat. Ce que l'esprit de virginité atteint par la vie contemplative. Tandis que la pauvreté permet l'assimilation et la transformation. Marie-Madeleine, c'est l'icône, quelque part, de l'esprit évangélique. L'esprit de virginité, esprit de pauvreté, esprit d'obéissance. Donc c'est drôlement bien qu'on soit là ensemble. On est arrivé quoi, sur les terres comme ça de Sologne. On voit de l'herbe, mais en fait en dessous c'est du sable. C'est pas du tout la Sainte-Baume. Et on se retrouve là. Ça veut dire quelque chose quand même, pas de vie. sais pas si vous voyez ce que le Seigneur nous pourrait nous faire percevoir. Au pied de la croix, il y a Marie, Jean et à Madeleine. Et les trois vont vers la dormition. Et à la dormition, ces trois ont une destinée tellement différente. De la dormition, Marie va à l'Assomption. Il y a quand même quelques heures qui séparent la dormition de l'Assomption. De la dormition, Jean va vers l'Apocalypse, dans une traversée du désert de Marie, à travers l'Eucharistie. Ça va durer 40 ans. Et Marie-Madeleine, elle, elle féconde les racines de la terre du véritable Israël de Dieu. Ces trois destinées qui sont liées les unes aux autres, comme on dit pour la Très Sainte Trinité, les trois personnes de la Très Sainte Trinité. Sont distinctes les unes des autres pour la communion des personnes, mais elles ne sont pas séparées. C'est un seul Dieu. Voilà, alors on va demander, on va célébrer la messe aujourd'hui, on célèbre la messe pour Nicolas. Nicolas. Nicolas a besoin du baptême. Et il a Saint-Jean comme parrain et Marie-Madeleine comme marraine. Alors, il va apporter ça à tous ceux qui sont comme lui. Procès sous esclandibus pour tous ceux qui sont comme lui. Tous les siens, 200 milliards de fois, il a du travail à faire. Pour la rédemption de son âme, et à travers la rédemption de son âme, la rédemption de l'océan d'innocence crucifiée triomphante, dans le Christ assis et descendu, est appuyé à la droite du Père. Et s'il va là-bas, par la foi, l'espérance, l'amour, la charité et la ferveur avec tous ceux qui sont les siens, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent pour la nature humaine entière, alors à ce moment-là, oui. Ils rentrent dans cette ascension fulgurante où il n'y a plus que de la vie, puisqu'ils ont été donnés à la mort. Et c'est justice. Je veux dire par là, il faut rentrer très 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 profondément dans la lumière de Dieu et laisser cette lumière de Dieu pénétrer de l'intérieur notre regard de Dieu pour que ce soit cette lumière incrée de Dieu et, ou cette lumière divine et surnaturelle de Dieu qui puisse vraiment de l'intérieur nous permettre de voir Dieu et de contempler Dieu et de voir que Dieu nous transforme lorsqu'on s'abandonne à lui, lorsqu'on lui obéit, est-ce qu'on est entièrement transformé? Le monde nouveau est arrivé, et bien voilà, puisque le monde nouveau est arrivé, nous célébrons la messe, et la messe nous engloutit, elle nous assume. Une dormition qui nous fait nous épanouir vers une assomption intime à l'intérieur de Dieu. Nous sommes engendrés du Père. Je vais vers le Père et votre Père. Mon Père et votre Père. Et dans le monde nouveau, avec l'ouverture des temps qui arrive là, ça nous engloutir dans l'autel pour que l'Eucharistie nous engloutisse elle-même dans cette admirable ascension alors que nous sommes encore sur la terre. Notre vie doit être virginale et contemplative. Notre vie est sous le souffle du Saint-Esprit. Notre vie vise d'abord l'humilité. C'est-à-dire comme disait le père Emmanuel, si vous voulez savoir s'il y a de l'humilité dans quelqu'un, vous regardez s'il gagne petit, s'il gagne petit, ou alors s'il est magnanime. Le gagne petit, c'est pas ça l'humilité. Un humble, voit
l'humble, celui qui est pauvre, celui qui est humble, il voit tout en grand. Il est magnanime.
Une capacité à recevoir l'Église de la fin des temps. La Jérusalem décollinante, virginale, sponsale, parfaite. Et du coup, qui se, dans sa pauvreté, et sa charité, et sa virginité, sa contemplation, est assimilée par la nature humaine entière, et rend possible l'ouverture des temps, dans l'épanouissement du Lys. De la part aussi du Seigneur. Donc on va laisser tomber, en dehors de ces trois, Marie, Jean et Madeleine, on va laisser tomber tous les autres. Ces trois à eux seuls sont, pour ainsi dire, la matrice transfigurante et régénérante de l'Église de la fin. Il faut que nous en soyons, si je puis dire. Voilà, ça c'est la messe du matin. On va se réveiller, notre vie est nouvelle. L'esprit de ce monde ne signifie plus rien pour nous. Et le temps ne signifie plus rien pour nous, mais l'intériorité du temps. Chaque instant, c'est comme une sève. D'un seul coup, c'est bizarre. Il y a l'instant présent, il y a une lumière, et une vie à l'intérieur de la lumière. Qui est à l'intérieur de l'instant présent. Et c'est là que je circule. Ça, c'est Dieu qui le fait en nous. Mais la capacité spirituelle du corps spirituel de l'homme lui rend facile cette opération, qu'il n'ait plus du temps. Il est maître du temps. Il n'est plus de ce monde, il est dans le monde. Mais il n'est plus de ce monde. Le monde est vaincu. Et le temps aussi. Mais celui qui est charnel récolte ce qui est charnel. Et celui qui est spirituel récolte l'Esprit Saint. Allons, allons à sa rencontre. Volons, volons à sa rencontre. Car voici, je suis. Qui vient à nous. Allons, allons à sa rencontre. Volons, volons à sa rencontre. Car voici l'Esprit Saint resplendit, envahit tout, éclaire ta lampe et fais-la brûler dans ton cœur. Je crois à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il a ressuscité des morts. Il est monté au ciel, et s'est assis à la droite de Dieu, le Père de Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des chers, à la vie éternelle. Amen.